Voici comment le duc de Navarreins, le premier créancier menacé par monsieur de La Baudraye, se tira d'affaire. Le Sancerrois vit arriver un matin à l'hôtel de Mayence où il s'était logé rue Saint-Honoré, près de la place Vendôme, un confident des ministres qui se connaissait en liquidation. Cet élégant personnage, sorti d'un élégant cabriolet et vêtu de la façon la plus élégante, fut obligé de monter au numéro 37, c'est-à-dire au troisième étage, dans une petite chambre où il surprit le provincial se cuisinant au feu de sa cheminée une tasse de café. « Est-ce à monsieur Milot de La Baudraye que j'ai l'honneur ?»« Oui, » répondit le petit homme en se drapant dans sa robe de chambre. Après avoir lorgné ce produit incestueux d'un ancien par-dessus chiné de madame Piedefer et d'une robe de feu madame de La Baudraye, le négociateur trouva l'homme, la robe de chambre et le petit fourneau de terre où bouillait le lait dans une casserole de fer blanc si caractéristique, qu'il jugea les finasseries inutiles. « Je parie, monsieur, dit-il audacieusement, que vous dînez à 40 sous chez Urbain au Palais-Royal. « Et pourquoi ? Oh, je vous reconnais pour vous y avoir vu, répliqua le Parisien en gardant son sérieux. « Tous les créanciers des princes y dînent. Vous savez qu'on trouve à peine 10% des créances sur les plus grands seigneurs. » Je ne vous donnerai pas 5% d'une créance sur le feu duc d'Orléans. Et même sur, il baissa la voix, sur monsieur. Vous venez m'acheter mes titres, dit le vigneron qui se crut spirituel. Acheter, fit le négociateur. Pour qui me prenez-vous? Je suis monsieur des Lupeaux, maître des requêtes, secrétaire général du ministère, et je viens vous proposer une transaction.
Laquelle?
Vous n'ignorez pas, monsieur, la position de votre débiteur, de mes débiteurs. « Eh bien, monsieur, vous connaissez la situation de vos débiteurs. Ils sont dans les bonnes grâces du roi, mais ils sont sans argent et obligés à une grande représentation. Vous n'ignorez pas les difficultés de la politique. L'aristocratie est à reconstruire en présence d'un tiers-état formidable. La pensée du roi, que la France juge très mal, est de créer dans la pairie une institution nationale analogue à celle de l'Angleterre. Pour réaliser cette grande pensée, il nous faut des années et des millions. » Noblesse oblige, le duc de Navarreins, qui, vous le savez, est premier gentilhomme de la chambre, ne nie pas sa dette, mais il ne peut pas. Soyez raisonnable, jugez la politique, nous sortons de l'abîme des révolutions, vous êtes noble aussi, donc il ne peut pas vous payer. Monsieur, vous êtes vif, dit des Lupeaux, écoutez, il ne peut pas vous payer en argent. Eh bien, en homme d'esprit que vous êtes, payez-vous en faveur, royale ou ministérielle. Quoi ? Mon père aura donné en 1793 100 000. Mon cher monsieur, ne récriminez pas. Écoutez une proposition d'arithmétique politique. La recette de Sancerre est vacante. Un ancien payeur général des armées y a droit, mais il n'a pas de chance. Vous avez des chances, et vous n'y avez aucun droit. Vous obtiendrez la recette. Vous exercerez pendant un trimestre, vous donnerez votre démission, et monsieur Gravier vous donnera 20 000 francs. De plus, vous serez décoré de l'ordre royal de la Légion d'honneur. « C'est quelque chose, » dit le vigneron, beaucoup plus appâté par la somme que par le ruban. « Mais, » reprit des Lupeaux, « vous reconnaîtrez les bontés de son excellence en rendant à sa seigneurie le duc de Navarreins tous vos titres. » Le vigneron revint à Sancerre en qualité de receveur des contributions. 6 mois après, il fut remplacé par M. Gravier, qui passait pour l'un des hommes les plus aimables de la finance sous l'Empire et qui naturellement fut présenté par M. de La Baudraye à sa femme. Dès qu'il ne fut plus receveur, M. de La Baudraye revint à Paris, s'expliquer avec d'autres débiteurs. Cette fois, il fut nommé référendaire au sceau, baron et officier de la Légion d'honneur. Après avoir vendu la charge de référendaire au sceau, le baron de La Baudraye fit quelques visites à ses derniers débiteurs et reparut à Sancerre avec le titre de maître des requêtes, avec une place de commissaire du roi près d'une compagnie anonyme établie en Nivernais, aux appointements de 6 000 francs, une vraie sinécure. Le bonhomme La Baudraye, qui passa pour avoir fait une folie, financièrement parlant, fit donc une excellente affaire en épousant sa femme. Grâce à sa sordide économie, à l'indemnité qu'il reçut pour les biens de son père nationalement vendus en 1793, le petit homme réalisa vers 1827 le rêve de toute sa vie. En donnant 400 000 francs comptants, et prenant des engagements qui le condamnaient à vivre pendant 6 ans, selon son expression, de l'air du temps, il put acheter sur les bords de la Loire, à 2 lieues au-dessus de Sancerre, la terre d'Anzy, dont le magnifique château bâti par Philibert de Lorme est l'objet de la juste admiration des connaisseurs. il fut enfin compté parmi les grands propriétaires du pays. Il n'est pas sûr que la joie causée par l'érection d'un majorat composé de la terre d'Anzy, du fief de la Baudraye et du domaine de la Haute-Oie, en vertu des lettres patentes en date de décembre 1829, ait compensé les chagrins de Dinah, qui se vit alors réduite à une secrète indigence jusqu'en 1835. Le prudent la Baudraye ne permit pas à sa femme d'habiter Anzy et d'y faire le moindre changement avant le dernier paiement du prix. Ce coup d'œil sur la politique du premier baron de la Baudraye explique l'homme en entier. Ceux à qui les manies des gens de province sont familières reconnaîtront en lui la passion de la terre, passion dévorante, passion exclusive, espèce d'avarice étalée au soleil et qui souvent mène à la ruine par un défaut d'équilibre entre les intérêts hypothécaires et les produits territoriaux. Les gens qui, de 1802 à 1827, se moquaient du petit la Baudraye en le voyant trotter à Saint-Thibault et s'y occuper de ses affaires avec l'âpreté d'un bourgeois vivant de sa vigne, ceux qui ne comprenaient pas son dédain de la faveur à laquelle il avait dû ses places aussitôt quittées qu'obtenues, eurent enfin le mot de l'énigme quand ce formicaléo sauta sur sa proie, après avoir attendu le moment où les prodigalités de la duchesse de Maufrigneuse amenèrent la vente de cette terre magnifique depuis 300 ans dans la maison d'Uxelles. Madame Piedefer vint vivre avec sa fille. Les fortunes réunies de monsieur de la Baudraye et de sa belle-mère, qui s'était contenté d'une rente viagère de 1200 francs en abandonnant à son gendre le domaine de la Haute-Oie, composèrent un revenu visible d'environ 15 000 francs. Pendant les premiers jours de son mariage, Dinah obtint des changements qui rendirent la Baudraye une maison très agréable. Elle fit un jardin anglais d'une cour immense en y abattant des celliers, des pressoirs et des communs ignobles. Elle ménagea derrière le manoir, petite construction à tourelles et à pignons qui ne manquait pas de caractère, un second jardin à massifs, à fleurs, à gazon, et le sépara des vignes par un mur qu'elle cacha sous des plantes grimpantes. Enfin, elle introduisit dans la vie intérieure autant de confort que l'exiguïté des revenus le permit. Pour ne pas se laisser dévorer par une jeune personne aussi supérieure que Dinah paraissait l'être, monsieur de la Baudraye eut l'adresse de se taire sur les recouvrements qu'il faisait à Paris. Ce profond secret, gardé sur ses intérêts, donna je ne sais quoi de mystérieux à son caractère, et le grandit aux yeux de sa femme pendant les premières années de son mariage, tant le silence a de majesté. Les changements opérés à la Baudraye inspirèrent un désir d'autant plus vif de voir la jeune mariée que Dinah ne voulut pas se montrer, ni recevoir, avant d'avoir conquis toutes ses aises, étudié le pays et surtout le silencieux la Baudraye. Quand, par une matinée de printemps, en 1825, on vit sur le mail la belle madame de la Baudraye en robe de velours bleu, sa mère en robe de velours noir, une grande clameur s'éleva dans Sancerre. Cette toilette confirma la supériorité de cette jeune femme, élevée dans la capitale du Berry. On craignit, en recevant ce phénix berruyer, de ne pas dire des choses assez spirituelles, et, naturellement, on se gourma devant madame de la Baudraye, qui produisit une espèce de terreur parmi la gent femelle. Lorsqu'on admira dans le salon de la Baudraye un tapis façonné comme un cachemire, un meuble pompadour à bois doré, des rideaux de brocatelle aux fenêtres, et sur une table ronde, un cornet japonais plein de fleurs au milieu de quelques livres nouveaux, lorsqu'on entendit la belle Dinah jouant un livre ouvert sans exécuter la moindre cérémonie pour se mettre au piano, l'idée qu'on se faisait de sa supériorité prit de grandes proportions. Pour ne jamais se laisser gagner par l'incurie et par le mauvais goût, Dinah avait résolu de se tenir au courant des modes et des moindres révolutions du luxe en entretenant une active correspondance avec Anna Grosstête, son amie de cœur au pensionnat Chamarolles. Fille unique du receveur général de Bourges, Anna, grâce à sa fortune, avait épousé le troisième fils du comte de Fontaine. Les femmes, en venant à la Baudraye, y furent alors constamment blessées par la priorité que Dinah sut s'attribuer en fait de mode. Et, quoi qu'elles fissent, elles se virent toujours en arrière ou, comme disent les amateurs de course, distancées. Si toutes ces petites choses causèrent une maligne envie chez les femmes de Sancerre, la conversation et l'esprit de Dinah engendrèrent une véritable aversion. Dans le désir d'entretenir son intelligence au niveau du mouvement parisien, madame de la Baudraye ne souffrit chez personne, ni propos vides, ni galanteries arriérées, ni phrases sans valeur. Elle se refusa net au clabaudage des petites nouvelles, à cette médisance de bas étage qui fait le fond de la langue en province.
aimant à parler des découvertes dans la science ou dans les arts, des œuvres fraîchement écloses au théâtre, en poésie, elle parut remuer des pensées en remuant les mots à la mode. L'abbé Duret, curé de Sancerre, vieillard de l'ancien clergé de France, homme de bonne compagnie, à qui le jeu ne déplaisait pas, n'osait se livrer à son penchant dans un pays aussi libéral que Sancerre. Il fut donc très heureux de l'arrivée de Madame de La Baudraye, avec laquelle il s'entendit admirablement. Le sous-préfet, un vicomte de Chargebœuf, fut enchanté de trouver dans le salon de Madame de La Baudraye une espèce d'oasis où l'on faisait trêve à la vie de province. Quant à Monsieur de Clagny, le procureur du roi, son admiration pour la belle Dina le cloua dans Sancerre. Ce passionné magistrat refusa tout avancement et se mit à aimer pieusement cet ange de grâce et de beauté. C'était un grand homme sec, à figure patibulaire ornée de deux yeux terribles, à orbite charbonnée, surmontée de deux sourcils énormes, et dont l'éloquence, bien différente de son amour, ne manquait pas de mordant. Monsieur Gravier était un petit homme gros et gras, qui, sous l'Empire, chantait admirablement la romance, et qui dut à ce talent le poste éminent de payeur général d'armée. Mêlé à de grands intérêts en Espagne avec certains généraux en chef appartenant alors à l'opposition, il sut mettre à profit ses liaisons parlementaires auprès du ministre qui, par égard à sa position perdue, lui promit la recette de Sancerre et finit par la lui laisser acheter. L'esprit léger, le ton du temps de l'Empire, s'était alourdi chez M. Gravier. Il ne comprit pas ou ne voulut pas comprendre la différence énorme qui sépara les mœurs de la Restauration de celles de l'Empire. Mais il se croyait bien supérieur à M. de Clagny, sa tenue était de meilleur goût, il suivait les modes, il se montrait en gilet jaune, en pantalon gris, en petite redingote serrée, il avait au cou des cravates de soierie à la mode ornées de bagues à diamants, tandis que le procureur du roi ne sortait pas de l'habit du pantalon et du gilet noir, souvent râpé. Ces quatre personnages s'extasièrent, les premiers, sur l'instruction, le bon goût, la finesse de Dina, et la proclamèrent une femme de la plus haute intelligence. Les femmes se dirent alors entre elles « Madame de La Baudraye doit joliment se moquer de nous ». Cette opinion, plus ou moins juste, eut pour résultat d'empêcher les femmes d'aller à La Baudraye. Atteinte et convaincue de pédantisme, parce qu'elle parlait correctement, Dina fut surnommée la Sapho de Saint-Satur. Chacun finit par se moquer effrontément des prétendues grandes qualités de celle qui devint ainsi l'ennemie des Sancerroises. Enfin, on alla jusqu'à nier une supériorité, purement relative d'ailleurs, qui relevait les ignorances et ne leur pardonnait point. Quand tout le monde est bossu, la belle taille devient la monstruosité. Dina fut donc regardée comme monstrueuse et dangereuse, et le désert se fit autour d'elle. Étonnée de ne voir les femmes, malgré ses avances, qu'à de longs intervalles et pendant des visites de quelques minutes, Dina demanda la raison de ce phénomène à Monsieur de Clagny. « Vous êtes une femme trop supérieure pour que les autres femmes vous aiment, » répondit le procureur du roi. Monsieur Gravier, que la pauvre délaissée interrogea, se fit énormément prier pour lui dire « Mais, belle dame, vous ne vous contentez pas d'être charmante, vous avez de l'esprit, vous êtes instruite, vous êtes au fait de tout ce qui s'écrit, vous aimez la poésie, vous êtes musicienne et vous avez une conversation ravissante. Les femmes ne pardonnent pas tant de supériorité. » Les hommes dirent à Monsieur de La Baudraye « Vous qui avez une femme supérieure, vous êtes bien heureux. » Et il finit par dire « Moi qui ai une femme supérieure, je suis bien, etc. » Madame Piedefer, flattée dans sa fille, se permit aussi de dire des choses dans ce genre. « Ma fille, qui est une femme très supérieure, écrivait hier à Madame de Fontaine telle, telle chose. » Pour qui connaît le monde, la France, Paris? N'est-il pas vrai que beaucoup de célébrités se sont établies ainsi ?